Alors, on peut commencer le débat. Donc, ceux qui voudraient intervenir, merci de lever la main. Il y a des camarades avec des micros qui circulent dans la salle. Je rappelle que si vous intervenez au nom d'une organisation, merci de vous signaler et de vous limiter à une intervention par organisation. Et puis aussi, merci de faire attention à ne pas faire des interventions trop longues. Voilà, je ne sais pas s'il y a du monde qui veut intervenir. Tout là-bas, voilà, il y a quelqu'un là-bas. Il y a une personne là-bas, une personne là.
C'est qui demande à intervenir? Et la dame,
moi, j'ai vu deux personnes, c'est ça? Au fond là-bas, et puis...
Ok. Voilà, je suis donc un militant du NPA révolutionnaire, comme certains me connaissent. Voilà, je ne suis pas mandaté par mon organisation, donc c'est à titre personnel que j'interviens. J'ai trouvé l'exposé très bien, très complet, survolant la période. Maintenant, il y a quelque chose qui me manquait, je trouvais, c'est l'intervention des révolutionnaires. En 1914, quand il y a eu la guerre, les révolutionnaires... Ceux qui n'avaient pas cédé aux sirènes de nationalisme, c'est-à-dire une infime minorité, avaient décidé de continuer à discuter, de continuer à militer, de se regrouper dans les conférences de Zimmerwald et Kiental, même si c'était plutôt symbolique. Ils avaient une orientation, ils avaient une intervention. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui approchait, Trotsky, à partir de 1933, sentant la guerre venir, a essayé... était pour la fondation de la 4e internationale. Bon, je vais pas faire un résumé de l'histoire d'internationale. Il a polémiqué durement avec d'autres organisations au niveau européen, mais pas qu'européen, au niveau mondial, en particulier lors des événements en 1936 et en 1900 en Espagne. Voilà. Tout ça pour dire que il faut que je pense que dans cette situation où on marche peut-être vers la guerre, il faut que les révolutionnaires se posent la question de l'intervention, de la discussion, du rassemblement des forces. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais en tout cas, c'était la préoccupation des révolutionnaires, quelles que soient les périodes difficiles. Ça ne va pas changer le cours des choses, quoique si un des arguments de Trotsky pour fonder la 4e internationale, c'est quand il y aurait la guerre, prenons peut-être exemple sur la Première Guerre mondiale, il fallait planter un drapeau. Et pour planter un drapeau, il faut que les révolutionnaires soient les plus implantés, évidemment, dans leur pays, qu'ils aient une boussole politique et qu'ils soient présents. Et c'est ça qu'il faut préparer, je pense, aussi l'intervention des révolutionnaires.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne sais pas si vous voulez... Est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Voilà, ah bah très bien.
Je parle pour l'élite trotskiste de France. Nous disons, pour nous, c'est clair que l'ordre libéral mondial imposé par les États-Unis depuis 30 ans et la contre-révolution en Union soviétique est maintenant en train de s'effondrer, même si les États-Unis demeurent la puissance impérialiste dominante clairement. Pour armer la gauche dans la période de crise qui s'ouvre, la gauche doit d'abord faire le bilan de 30 ans d'échecs pendant lesquels elle n'a cessé de reculer, y compris nous et lutte ouvrière. Nous avons tiré ce bilan lors de notre dernière conférence internationale et nous proposons un programme pour reforger la 4e internationale. Toute la gauche a reculé parce qu'elle s'est adaptée au libéralisme, alors qu'il n'était que le reflet idéologique de la mondialisation économique sous l'égide du capital impérialiste. Les sociaux-démocrates sont devenus les défenseurs acharnés de cet ordre libéral, affaiblissant la classe ouvrière. Ainsi, la gauche entière, y compris lutte ouvrière, a accepté comme progressiste l'Union européenne et l'euro au nom de l'ouverture des frontières, de la lutte antiraciste, contre le nationalisme, etc. Vous avez dit que l'Union européenne était un pas en avant, je cite, même petit et partiel, vers la suppression des frontières. Ce vocable libéral cachait à peine la réalité de la suppression des barrières aux déprédations du capital financier, y compris français. L'UE à Candice de l'OTAN est un outil pour le pillage impérialiste des nations opprimées, pour l'exploitation de la classe ouvrière, ainsi qu'une machine de guerre contre les petits producteurs agricoles. C'est le soutien de la plus grande partie de la gauche, notamment le PS et le PCF et les chefs syndicaux à l'UE, qui l'empêche de démasquer les démagogies de RN sur l'UE et alimente les traits du RN parmi les classes populaires. Alors combine le suivisme des libéraux avec les appels à la révolution socialiste pour demain quand les travailleurs se réveilleront. De ce qu'on dit, travailleurs français immigrés, même patron, même combat, tout en refusant de se battre contre la stratégie de Binet et compagnie dans les grèves de sans-papiers, où le reste de leurs collègues continuaient à travailler, cela ne que sert à isoler la lutte et renforcer la division et l'exploitation de tous les travailleurs. Y rajouter des déclarations sur la révolution communiste de l'avenir ne permet pas de défier les directions actuelles de la classe ouvrière. Contre les bureaucraties syndicales ou les mélenchonistes républicains, il faut lutter concrètement pour une direction révolutionnaire dès maintenant dans les luttes concrètes de la classe ouvrière et des opprimés. Y compris la lutte actuelle des paysans exige des révolutionnaires un programme ouvrier pour faire avancer cette lutte. Cela exige de rompre avec les mélenchonistes, éco-socialistes, éco-protectionnistes, afin d'orienter les paysans, pas vers le RN évidemment, mais vers l'issue révolutionnaire. Donc, pour finir, nous appelons les militants de LO à faire le bilan de l'échec de leur propre organisation depuis 30 ans et à rompre avec le libéralisme sur la voie pour reforger le 4e international. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, il y a quelqu'un là-bas.
Alors, c'est sur un détail. J'étais un peu étonné, bien que c'est bon, des comportements de la bourgeoisie, des fois dégroutants, mais le fait que, quand tu avais parlé dans les années 70 de l'OPEP et des bourgeois de ces pays-là qui achetaient des dollars pour les réinvestir aux États-Unis, comment ça se fait qu'ils ne soient pas un peu plus nationalistes? Parce que j'imagine qu'ils auraient intérêt quand même leur propre économie se développe et que leur État se développe. J'étais étonné de ça, surtout que comment ça se fait que leur propre État, agisse pas un peu plus pour que la bourgeoisie se comporte dans son propre intérêt un peu collectif, quoi. Voilà, c'était ça ma question.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ah, pardon, aux premières. Là. Il y a un camarade.
J'aimerais savoir, j'ai remarqué que délocalisation, relocalisation, avec toute l'immigration, tout ça, toutes les sortes de sujets, où est la conscience de classe, de la classe ouvrière? Elle est bien endormie. Que se passe-t-il?
Alors, bordel.
T'as eu quand même la meilleure question. Alors, ouais. Est-ce que c'est bon? Bon, je passe la parole pour répondre à Pierre Merlet.
Alors, d'abord, je vais prendre dans l'ordre, le camarade du NPA. D'abord, quand même, la façon dont tu présentes les choses, je voudrais nuancer quelque chose. Tu dis, en 1914, les révolutionnaires avaient décidé d'organiser des conférences, Zimmerwald, etc. C'est la première chose qui s'est quand même passée en 14, c'est l'effondrement de l'international et des partis ouvriers, du mouvement ouvrier. Alors, bien sûr, il est resté des révolutionnaires qui ont tenu le cap, qui ont fait face. Mais dans un premier temps, vous savez, ces révolutionnaires, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Rosa Luxembourg, elle s'est retrouvée en prison. Enfin, elle était en prison. Bien d'autres étaient dispersés en exil dans des situations très difficiles ou même s'exprimaient. c'était dans des cercles relativement restreints. Je dis ça pourquoi ? Pour dire qu'il faut quand même se rendre compte que quand la guerre arrive, la pression nationaliste, la pression que l'État bourgeois met pour que toute la société s'engage dans la guerre, elle est très forte. Alors, bon, c'est une nuance parce que par ailleurs, je suis d'accord, oui, il faut que les révolutionnaires... ils ont une politique, ils défendent une politique. Je crois que c'est quand même en fait ce qu'on essaie de faire, justement, entre autres en discutant ici. Après, tu dis il faut rassembler les forces. Et donc, tu as l'air de présenter les choses comme si, face à la difficulté, il fallait finalement faire front, tous se serrer les coudes. Voilà. Mais, et tu dis il faut planter un drapeau comme Trotsky l'a fait. Mais la question, c'est quel drapeau on va planter ? C'est quand même ça, la principale question. Alors... En ce qui concerne je vais faire court, mais en ce qui concerne le NPA aujourd'hui, les NPA, malgré leur division, le problème qu'on a, c'est rien que sur la guerre en Ukraine, on s'est trouvé complètement en désaccord. Et pour ce qui est du NPA auquel je pense tu appartiens aujourd'hui, ben on ne sait pas bien quelle est sa position sur la question. Peut-être que toi, tu es d'accord avec ce qu'on défend nous, c'est-à-dire que... l'Ukraine, finalement, est un pion utilisé aujourd'hui par l'impérialisme occidental contre la Russie, ce que tout le monde paye, non seulement la Russie, mais évidemment l'Ukraine elle-même et l'Europe, etc. Mais il y a aussi toute une partie de... Voilà, on ne sait pas, en fait. Donc nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire dès maintenant, c'est effectivement de prendre des positions, de planter un drapeau, de dénoncer la guerre qui arrive comme une guerre qui s'étend, on va dire, parce qu'elle est déjà là, la guerre, en fait, hein. De dénoncer la guerre impérialiste, voilà. Alors, toute la gauche a reculé. Bon, là, c'est pareil. Tu dis les sociaux-démocrates sont devenus des défenseurs acharnés du libéralisme. Mais quand même, les sociaux-démocrates, en 1914, il n'y avait pas de libéralisme, pas libéralisme, ils sont devenus des défenseurs acharnés de la guerre impérialiste. Les dirigeants sociaux-démocrates qui ont abandonné le programme révolutionnaire, qui ont trahi le programme révolutionnaire, dès cette époque, alors je ne sais pas ce qu'il y a de si nouveau que ça, depuis 30 ans, 20 ou 30 ans de ce point de vue-là. Et je voudrais juste réagir à autre chose que tu as dit. Tu nous as reproché d'avoir dit que l'Union européenne avait été un pas en avant. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un raccourci. On n'a jamais salué la construction de l'européenne en disant c'est un pas en avant, etc. On a dit que c'était évidemment une construction... bourgeoise, un organisme, enfin une tentative d'État bourgeois de s'unifier, de se renforcer, etc. Mais dans cette construction, par exemple, la monnaie unique, c'est pas ça qui va changer la société, mais on considérait pas que c'était quelque chose de négatif qu'il y ait une monnaie commune à un certain nombre de pays. On considère pas non plus que ce qui permet de lever parfois certaines frontières, frontières, etc., en soi, ce soit quelque chose de négatif. Ce que je veux dire par là, alors je vais le dire de façon un peu provocante, mais nous, on pense que le capitalisme, c'est pas l'Union européenne, le capitalisme, il a fait franchir un pas en avant à l'économie, à la société, de bien des façons. Je rappelle que Marx, dans le Manifeste communiste, il commence par saluer les bouleversements que le capitalisme a réalisés partout en disant que c'est bien plus extraordinaire que les pyramides d'Égypte, etc. etc. Il n'était pas devenu pour autant un partisan du capitalisme. C'était une façon de dire justement le capitalisme, eh ben, il a un dynamisme en lui qui fait que il a conquis des marchés partout sur la planète, qui fait que la grande production, elle a finalement un peu partout pris la place de la petite production, que les échanges se sont internationalisés, etc. Ben ça, il y a deux façons de dénoncer le capitalisme. C'est soit de dire il faudrait revenir en arrière, finalement tout ce qu'il a fait, c'est acheté, soit d'essayer de voir ce qui, justement, dans cette évolution, pourrait, entre les mains des travailleurs et ça, effectivement, il ne faut pas l'oublier, mais nous, on ne l'oublie jamais, entre les mains des travailleurs, pourrait constituer la base d'un progrès sans précédent, là encore. Nous, on est convaincus qu'entre les mains des travailleurs, tous ces outils, tous ces moyens dont la société dispose, ben, ça permettrait des bouleversements au moins comparables, mais enfin, sans doute même bien plus importants que ce que le capitalisme avait été capable d'apporter par rapport à la société féodale. Excuse-moi. La lutte. Oui, bon. OK. Ensuite, la question sur l'OPEP. Pourquoi ils n'étaient pas plus nationalistes, etc. Sur les pays, les monarchies pétrolières dans les années 70. Alors, je vais répondre de façon un peu générale, peut-être. D'abord, parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous comprenez, les pays qui étaient des pays pauvres, qui se sont développés une fois que l'impérialisme avait mis la main sur toute la planète, sur tous les marchés, que les capitaux s'étaient étendus à toute la planète, ces pays, ils n'avaient plus le choix pour se développer que d'essayer de s'insérer dans ce système. Alors, et s'insérer dans ce système, vous comprenez, les relations ne sont pas égales. Même quand vous avez des pays où une bourgeoisie se développe, comme la Chine, les monarchies des Émirats arabes unis ou d'Arabie saoudite, ça n'empêche pas qu'ils sont soumis, enfin, ils s'insèrent, en fait, dans des marchés où ce n'est pas eux qui dirigent, ce n'est pas eux qui dominent. Alors, quel choix ils ont ? Comment veux-tu qu'ils développent leur propre pays en dehors, justement, du marché mondial ? Ce n'est pas leur problème. Non, ils n'avaient pas intérêt forcément à ce que leur pays, tout dépend de ce qu'on entend par là, mais à ce que la population de leur pays, à ce que se développe, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent, c'est pas leur problème. Ils cherchent à se faire une place au soleil, ils cherchent à avoir leur part du gâteau, de l'immense gâteau que l'impérialisme se partage partout dans le monde. Certains ont réussi un petit peu. Certains ont réussi à prendre une part, etc. Mais ça ne veut absolument pas dire un développement harmonieux d'un pays, etc. Ce développement, il a des tas, par plein d'aspects, il est toujours très contrasté. Trotsky parlait de développement inégal à une autre époque pour certains pays. Ben, c'est toujours ça. Vous avez les milliardaires qui côtoient les bidonvilles. C'est ça le développement dans le système impérialiste et ça ne peut pas être autre chose. Et l'autre aspect, en plus, ils sont nationalistes. Il faut se méfier un petit peu, parce que c'est compliqué, justement, les rapports entre les États et les impérialistes. D'un côté, bien sûr, on pourrait se dire chaque capitaliste a son État qu'il défend. Et dans une certaine mesure, c'est pas faux. Mais là, ça a bien évolué. J'ai essayé de montrer, le capital, il s'est internationalisé. Et il mange à tous les râteliers. Par exemple, il y a deux jours, il y avait un article sur Stellantis, qu'on connaît bien ici, et ses relations avec l'Italie. Stellantis, c'est un groupe maintenant qui est, si je ne dis pas de bêtises, franco-italo-américain, puisque c'est Chrysler, Fiat et Peugeot. Alors, quelle est la nationalité de ce groupe capitaliste ? Bon, bah, dedans, il y a des... Qu'est-ce qu'il a dit ? L'argent, exactement. Dedans, il y a des capitalistes français, il y a des capitalistes italiens, américains, et sans doute d'autres d'ailleurs. OK, mais c'est au-delà de telle ou telle nationalité. Par contre, de quoi elle se plaint là, Mélanie, en Italie, c'est que Stellantis, d'après elle, est de moins en moins italien. C'est-à-dire Fiat est de moins en moins italien, et Stellantis investit de moins en moins en Italie. Et effectivement, non seulement Stellantis investit de moins en moins, mais enfin, ils ont fermé des usines. Ils ont licencié, je crois, plus de 7000 salariés. Et ils ont appris là qu'en fait, Stellantis incitait ses fournisseurs en Italie à déménager au Maroc. Vous vous rappelez, j'ai dit dans le topo qu'ils ont une usine au Maroc, maintenant, Stellantis, qui produit, je crois, 400 000 voitures, et ils voudraient bien en produire le double. Eh ben, ils ont essayé de débaucher leurs fournisseurs italiens pour les envoyer au Maroc. Et Mélanie, elle n'est pas contente. Alors, ça n'empêche pas que Tavares fait du chantage à l'Italie en disant « Mais nous, il faut nous aider si vous voulez qu'on se développe et qu'on reste chez vous. On a besoin d'un prix de votre électricité coûte trop cher. je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, ils réclament des subventions, des aides. Donc, ce groupe, qui est je ne sais pas quelle nationalité, il touche des aides de l'État italien, de l'État français, de l'État américain aussi, parce qu'ils sont allés acheter du lithium pour leur batterie électrique aux États-Unis, parce que comme ça, ils touchent les subventions du plan américain. Et puis des autres États, donc de l'État marocain qui leur déroule le tapis, etc., etc. Les groupes capitalistes, bien sûr, les États sont à leur service. Et puis parfois, les États, y compris, s'affrontent quand des grands groupes capitalistes sont en concurrence. Mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Justement, c'est une aberration de plus, cette histoire de frontières, de morcellement économique. Je vais peut-être finir là-dessus. En même temps, où est la conscience de la classe ouvrière? Elle est dans ce qu'on est. Nous, on pense dans ce qu'on essaie de défendre. Et donc, je vais peut-être finir là-dessus. Rosa Luxembourg, il y a déjà un siècle, maintenant au moins, elle disait que la contradiction la plus flagrante dans la société, c'était le contraste entre les besoins de l'économie. On ne disait pas mondialisé à l'époque, mais déjà de l'économie internationale, des échanges internationaux. Le contraste entre ça et les poteaux frontières. C'est-à-dire, à l'époque, on matérialisait les frontières avec des poteaux, etc. Enfin, c'est-à-dire, et le fait qu'il y a le morcellement national partout. L'économie est internationale, mais les États sont divisés, morcelés et se font la guerre. Et ben, aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Et c'est ce qui illustre, c'est ce qui illustre très bien ce genre de contradiction, la situation des pays de l'OPEP, ou la situation d'un grand trust comme Stellantis et ses relations avec les États. Et c'est pour ça que nous, on est convaincus que la seule solution pour se sortir de ça, c'est le communisme. Et ce communisme, on ne l'a pas inventé, il découle vraiment de l'évolution même du capitalisme, encore une fois. C'est ce capitalisme qui a engendré les monopoles, qui a engendré... je ne vais pas refaire le topo. Ce qu'il a fait, c'est qu'en concentrant la propriété privée des moyens de production entre quelques mains, finalement, il en a privé l'immense majorité de l'humanité. Et il a créé un prolétariat immense aussi, qui lui, la seule façon qu'il a de se sortir de ça, c'est de justement mettre en place une autre organisation sociale. Et ça, nous, ça nous donne confiance dans l'avenir.
Alors, on va clôturer cette réunion et on vous donne rendez-vous le 2 mars pour le prochain Cercle Léon Trotsky où on parlera de l'Union européenne en crise.